Le dossier calédonien géré directement par l'Élysée. Emmanuel Macron l'a réaffirmé à Sonia Backès la nuit dernière. La présidente de la province sud a été reçue par le chef de l'État. Il a été question d'ordre public, d'économie et de solutions politiques. Retour sur cet entretien en début de ce journal. L'actualité judiciaire, 5 personnes interpellées à l'île des Pins après l'agression de Virginie Rufnacht et de Laura Vandégout. Elles sont poursuivies pour violences volontaires commises en réunion et avec armes. Le haut-commissaire condamne ces actes inqualifiables et d'une grande gravité. Il apporte tout son soutien aux deux élus. Les jours se suivent et se ressemblent dans l'actualité politique nationale. Toujours pas de Premier ministre en vue. Emmanuel Macron consulte encore et encore. Le sport sur les Jeux paralympiques de Paris, 4 nouvelles médailles, mais pas d'or aujourd'hui pour la délégation française. Le bilan est de 2 médailles en argent et de 2 en bronze. La météo en Nouvelle-Calédonie, le temps est souvent maussade avec des pluies faibles, mais qui peuvent être modérées par endroits sur la moitié sud de la Grande Terre. Quelques éclaircies résistent encore sur le nord-ouest et le nord des Loyautés. Quant à l'Alizé, de sud à sud-est, il se renforce. Les températures maximales baissent légèrement. Elles sont comprises entre 24 et 29 degrés.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et je le disais donc, Sonia Backès a rencontré Emmanuel Macron à Paris. Depuis plusieurs jours maintenant, la présidente de la province sud multiplie les rendez-vous avec les personnalités politiques de premier plan. Après avoir rencontré l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Sonia Backès a donc été reçue à l'Élysée par le président de la République la nuit dernière. Un entretien d'une heure au cours duquel la présidente de la province sud a dressé un état des lieux de la situation en Nouvelle-Calédonie. Sonia Backès qui a notamment abordé l'urgence de la situation économique.
Je lui ai effectivement dressé un point de la situation assez catastrophique sur le plan économique. Ce qui me tient à cœur, c'est qu'au-delà des aides d'urgence qui sont évidemment nécessaires, on passe très rapidement à une phase avec de gros investissements publics lancés de manière à redonner du travail et de la visibilité aux Calédoniens. Donc je lui ai indiqué l'échéance, que si à 15 jours, 3 semaines, on n'avait pas de solution, le jeu de domino commencerait à s'effondrer en Nouvelle-Calédonie. Donc il m'a indiqué d'une part en être parfaitement conscient, d'autre part adhérer à cette vision de nécessité de passer à une phase d'investissement.
Emmanuel Macron a confirmé qu'il gardait donc le dossier calédonien en main et que l'absence de Premier ministre et de gouvernement n'était pas un problème pour le territoire. La situation de la Nouvelle-Calédonie étant considérée comme une affaire urgente. Emmanuel Macron a aussi confirmé qu'il voulait relancer le dialogue politique en invitant les partenaires calédoniens à Paris fin septembre, début octobre.
On a abordé évidemment la difficulté liée à la division du camp indépendantiste et à l'extrémisation de la partie UCCCAT avec la nomination sans doute non conforme, mais en tout cas de Christian Théin à la présidence du FLNKS. Et il m'a indiqué très clairement qu'il gardait le dossier en main en collaboration étroite avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée parce que je crois que c'est un dossier qui d'une part lui tient à cœur et d'autre part dans la situation d'inconnu gouvernemental, je pense que c'est rassurant pour la Nouvelle-Calédonie. Il veut reprendre le dialogue politique sans doute dans les prochaines semaines, je le laisserai évidemment s'exprimer sur le sujet, pour remettre autour de la table les uns et les autres. Je pense qu'il ne pourra pas inviter le FLNKS au titre du FLNKS. Lui, il invitera les partis politiques et les groupes politiques présents au Congrès. Nous, on ira, on participera. Puis après, vous savez quoi, chacun prend ses décisions et ses responsabilités.
Et Sonia Backès a également présenté sa vision et son projet.
Il est conscient de la difficulté à trouver une solution. J'ai abordé avec lui la nécessité de mettre en place une solution qui permette une forme de fédéralisme interne, c'est-à-dire que chaque collectivité puisse développer son propre projet de société compte tenu de la situation et de revenir à l'esprit des accords de Matignon en 88, où chacun, là où il est majoritaire, peut développer son projet de société.
Et durant cette heure d'entretien, la nuit dernière, il a été question de l'aspect sécuritaire, évidemment. Emmanuel Macron a indiqué qu'il était très préoccupé par le blocage de Saint-Louis et la situation des habitants du Mont-d'Or-Sud. Il a indiqué qu'une réunion se tiendrait la semaine prochaine pour permettre de rendre la RP1 de nouveau praticable à hauteur de la tribu de Saint-Louis. Le président qui a également demandé des nouvelles de Virginie Rufnacht et de Laura Vandégout, agressées à l'île des Pins le week-end dernier. Du côté de la justice, justement, dans un communiqué publié hier en milieu d'après-midi, le procureur de la République annonce que 5 personnes ont été arrêtées. Elles ont été placées en garde à vue par la brigade de recherche de Nouméa dans le cadre de cette affaire, Léana Colombo.
Et oui, ces 5 majeurs résidents de l'île des Pins seront poursuivis pour violence volontaire sur militaire de la gendarmerie nationale, commise en réunion et avec armes, en l'occurrence la projection d'un cocktail Molotov en direction du véhicule de la gendarmerie, mais également pour violence volontaire en réunion commise sur 2 élus et dégradation de biens. Ces faits de violence volontaire, écrit Yves Dupas, qui ont visé des personnes titulaires d'un mandat électif public et des gendarmes, justifient un traitement judiciaire rapide et empreint de fermeté.
Et puis le haut-commissaire apporte tout son soutien à Laura Vandégout et Virginie Rufnacht. Dans un communiqué, il rappelle que les 2 élus de la province sud et du Congrès ont été victimes de faits de violence volontaire samedi dernier lors d'un déplacement à l'île des Pins. Louis Lefranc condamne ces actes inqualifiables et d'une grande gravité. Il écrit que sans le secours porté par les officiers de sécurité chargés de leur protection, ces faits délictueux auraient pu être bien plus tragiques. Il rappelle que les élus de la République fondent la représentation démocratique et que leur liberté de parole et de circulation sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie sont un pilier du vivre ensemble. Le commissaire précise également que la loi du 21 mars 2024 est venue durcir le montant des amendes et la durée des peines de prison à l'encontre de celles et ceux qui seraient reconnus coupables de violences commises contre les titulaires d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions. Une agression de 2 élus qui a par ailleurs conduit la province sud à décider de la fermeture des services provinciaux sur l'île des Pins du 5 au 9 septembre, c'est-à-dire à partir de demain. Et le 2e vice-président de la collectivité, Gilles Brial, s'en explique, Léana Colombo.
Oui, 2 élus en déplacement sur le terrain à la rencontre des populations et des entreprises touristiques dont l'activité est actuellement durement impactée et qui ont dû repartir après avoir été agressées par des jeunes cagoulés qui exigeaient d'elles qu'elles ne mettent plus les pieds à l'île des Pins. Le message, explique le 2e vice-président de la province sud, Gilles Brial, c'est que la collectivité n'est plus la bienvenue sur l'île des Pins. Elle porte pourtant de nombreux services à la population kouniée, précise encore Gilles Brial, qui souhaite qu'un point soit fait à la fois avec le personnel de la province sud et les autorités coutumières.
À l'île des Pins, la province, c'est la santé à travers le CNS, c'est la protection des personnes avec les pompiers, c'est les liaisons aériennes avec les contrôleurs aériens, et les liaisons maritimes, puisqu'on finance le Petit Joe. Et c'est les aides aux personnes et aux entreprises avec nos médiateurs. Donc c'est une vingtaine de personnes qui sont au service de la population. Donc nous, notre objectif numéro un, c'est de faire le point avec notre personnel provincial qui au quotidien porte la politique au service de la population à l'île des Pins. Et puis deuxièmement, c'est adresser également un message aux Kouniers et leur dire qu'on ne peut pas accepter que la collectivité soit prise à partie. Il faut qu'ils fassent la différence entre la politique et une institution qui est au service de la population.
L'ensemble de ces services provinciaux sera donc fermé sur l'île des Pins du jeudi 5 septembre au lundi 9 septembre inclus. La province sud avait déjà réaffirmé dans un communiqué sa détermination à ne pas se laisser intimider par des actes antidémocratiques et appelle les autorités coutumières à réagir afin que ces violences cessent immédiatement. Notez également que la mairie de l'île des Pins est fermée jusqu'à vendredi et des perturbations sont également signalées ce matin concernant les écoles qui seraient partiellement bloquées.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la décision de la province sud de fermer les services provinciaux pendant 5 jours à l'île des Pins après l'agression dont ont été victimes samedi 2 élus, Virginie Rufnacht et Laura Vandégout? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier et 79% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pense que l'objectif premier de la taxe sur le sucre qui vient d'entrer en vigueur est d'augmenter les recettes fiscales. Ils sont donc 21% à penser à l'inverse, qu'elle a d'abord pour objectif la santé publique. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En bref, une double opération au Mont d'Or hier matin. D'abord à la Conception où les gendarmes ont procédé à une interpellation dans la tribu. Il pourrait s'agir d'un individu impliqué dans les heurts survenus dimanche dernier. 2 gendarmes avaient été blessés lors d'une opération de déblayage de la route après avoir essuyé des caillassages et des tirs. Et puis d'autre part à Saint-Louis, plusieurs centaures et VBRG ont mené une patrouille entre les 2 verrous de la RP1 pour vérifier si l'axe n'était pas encombré. Les gendarmes ont essuyé des tirs nourris d'armes à feu lors de cette opération. Et justement, concernant cette situation à Saint-Louis, après le maire du Mont d'Or, Eddy Le Courrieux, qui avait écrit au président de la République, C'est le président de l'association des citoyens mondoriens, Florent Perrin, qui envoie un courrier au chef de l'État pour lui demander le déblocage et la sécurisation de la route de Saint-Louis-Léana.
Et il lui rappelle la situation des habitants du sud du Mont-d'Or, privés de leur liberté de circulation à cause d'un groupe d'individus armés qui leur impose sa loi en tirant sur les gendarmes et en agressant les usagers de la route. Il détaille les conséquences de cette situation pour la population et il évoque le projet de construction d'une voie de désenclavement sur la mer qui n'a obtenu jusqu'à présent aucune réponse positive de la part de l'État. En conclusion, Florent Perrin écrit au président de la République que ses 12 000 citoyens lui demandent solennellement d'intervenir de toute urgence auprès des responsables de ce blocage afin que leur vie puisse enfin redevenir normale et sécurisée.
Et je rappelle, puisqu'on en parlait en début de ce journal, que le président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué à Sonia Backès, la présidente de la province sud, la nuit dernière, qu'une réunion aura eu lieu la semaine prochaine en vue de débloquer cette situation du côté du Mont d'Or. Et avant de refermer cette page, un rendez-vous sur notre antenne. Nous ferons le point sur les aides de l'État aux entreprises et au monde économique ce matin à 7h30. C'est le secrétaire général du Haut-Commissariat Stanislas Alfonsi qui viendra nous en parler. Il sera notre invité du matin. Une interview donc à suivre à partir de 7h30. En attendant, il est 6h passé de 41 minutes. La suite du journal, ce sera après la pub. On verra l'actualité nationale. Et en clair, eh bien, on n'y voit pas plus clair du côté de Matignon.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon, Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Le Réseau National des CCI se mobilise. Votre chambre s'entoure d'experts pour renforcer son aide auprès des entreprises impactées par la crise. Bénéficiez gratuitement jusqu'à 4 heures d'accompagnement par des consultants financiers, juridiques et en droit des assurances. Contactez-nous à soutien@cci.nc ou au 05 03 03. Vos conseillers CCI sont à votre écoute. Vous aider est notre priorité.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité politique nationale dans ce journal et ça ressemble à une histoire sans fin pour la nomination d'un nouveau Premier ministre. Après Thierry Baudet, c'est donc celui de Xavier Bertrand, son nom qui domine aujourd'hui pour Matignon. Alors comment, pourquoi ce ne sera pas Xavier Bertrand ? Eh bien Jacques Serret nous explique tout pour Europe.
Parce qu'il ne tiendrait pas. Alors oui, Emmanuel Macron a bien évoqué l'hypothèse de cette nomination ce matin par téléphone avec Gérard Larcher, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Ces trois interlocuteurs lui ont fait savoir qu'il n'était pas contre, mais à certaines conditions, à savoir que l'essentiel du pacte législatif proposé par la droite soit soutenu par le camp présidentiel, mais aussi et surtout qu'en amont, le président lui-même s'assure qu'un tel gouvernement avec Xavier Bertrand à sa tête ne soit pas censuré par une majorité de députés. Et le couperet est rapidement tombé. En plus d'une Nouveau Front Populaire, il est hors de question également pour le Rassemblement National de laisser s'installer à Matignon l'actuel président de la région Hauts-de-France. La députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, a bien trop de reproches à lui faire pour ne pas le censurer, à commencer par son soutien à un candidat communiste lors des législatives pour faire barrage au RN. Autrement dit, avec la gauche et le RN contre lui, la rue de Varennes semble totalement barrée.
Mais alors, quelle option reste-t-il au chef de l'État ?
Une seule, trouver un mouton à cinq pattes, une personnalité plutôt de droite et suffisamment consensuelle pour ne pas s'attirer les foudres de Marine Le Pen ou du socialiste Olivier Faure. C'est pourquoi le nom de David Lisnard refait surface. À la tête de l'Association des maires de France, l'édile de Cannes travaille déjà avec nombre d'élus PS et il peut fédérer le camp présidentiel et les Républicains sans être censuré par le RN. Enfin, Emmanuel Macron pourrait aussi en ultime recours tenter de convaincre Gérard Larcher. Bien que le président du Sénat ait exclu cet été l'hypothèse d'une entrée à Matignon, il faut dire qu'une telle nomination lui ferait perdre sa place, celle de deuxième personnage de l'État.
Emmanuel Macron, qui privilégierait donc une solution politique, l'hypothèse d'un gouvernement technique le semble écartée pour le moment. Édouard Philippe lui annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, une déclaration qui arrive en plein flou politique alors qu'Emmanuel Macron est toujours à la recherche de son Premier ministre. Le président du parti Horizon ne faisait plus mystère de ses ambitions depuis quelques mois, il l'avait d'ailleurs dit sur Radio Rythme Bleu lors de son séjour sur le territoire. Il affiche maintenant toute sa détermination et se dit prêt, même en cas de démission d'Emmanuel Macron, et donc de scrutin anticipé. Dans le reste de l'actualité en métropole, une embarcation de migrants a fait naufrage au large de Boulogne-sur-Mer, dans les Hauts-de-France. Gérald Darmanin a annoncé 12 morts sur ce bateau surchargé dans lequel se trouvaient près de 70 personnes. Une situation de détresse repérée par des marins pêcheurs qui naviguaient dans la zone. Les secours sont intervenus immédiatement, dont des sauveteurs de la SNSM. Gérard Baron est le responsable à Boulogne-sur-Mer.
La mer était un peu moutonnée, oui. C'est pour ça qu'ils ne devaient pas partir, mais ils sont partis quand même. La situation, c'est que ces bateaux ne sont pas aptes à traverser la Manche, se plient et se cassent très facilement. Et il n'y a quasiment jamais plus de la moitié des personnes à bord qui ont des gilets.
Et les victimes sont pour la plupart des femmes issues de l'Afrique de l'Est. On note pour le moment 25 victimes décédées dans la Manche cette année. Une situation qui doit pousser l'Union européenne à revoir sa politique migratoire avec la Grande-Bretagne. C'est ce qu'affirme Gérald Darmanin. Car la simple lutte contre les réseaux de passeurs ne suffit plus. Fin de citation. L'actualité judiciaire est le feu vert de l'Argentine. Oscar Jégou et Hugo Oradou sont donc autorisés à rentrer en France après avoir été retenus pendant près de 2 mois en Argentine où ils sont inculpés pour viol. Ils démentent formellement cette agression après un test match. Ce feu vert au retour en France est néanmoins assorti de règles. Les rugbymen doivent notamment se présenter s'ils sont convoqués au consulat d'Argentine en France, établir une adresse réelle et virtuelle, voire se présenter directement en Argentine si cela leur est demandé. Et puis la rentrée, jour 2, c'était au tour de quelques établissements, notamment privés, de recevoir leurs élèves. Nicole Belloubet, la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, était en visite dans un collège de l'Essonne qui expérimente la pause numérique, que suivent d'ailleurs près de 200 établissements à partir de cette semaine. En clair, les téléphones portables des élèves sont récupérés au début de la journée. Ils ne les retrouvent qu'à la fin des cours. Louise Salé pour Europe 1.
Les élèves démarrent leur journée en déposant leur portable dans une enveloppe, elle-même insérée dans une mallette. Il y en a une par classe et toutes ces mallettes sont rangées le matin dans une armoire fermée à clé dans une salle. La principale du collège, Catherine Onduz.
C'est une mallette toute simple, enfin de travaux quand même, assez renforcée. Et donc dans laquelle on a effectivement rangé les portables, on a les enveloppes nominatives.
Pour l'instant, aucun élève ne rechigne à se plier à l'exercice. À 10 ou 11 ans, les enfants se séparent facilement de leur premier téléphone.
On joue avec nos amis, on est sans téléphone et parfois ça nous fait du bien.
Je pense que c'est dangereux les réseaux sociaux, surtout il y a du harcèlement des fois, ça peut surtout déconcentrer parce qu'on n'est là pas pour utiliser le téléphone mais plutôt pour l'apprentissage. On n'est pas dans le lieu qui s'appelle utiliser les réseaux sociaux pour vous amuser pendant la journée.
L'utilisation des portables est déjà interdite dans les établissements depuis 2018. Par ailleurs, chacune de ces mallettes coûte 60 €, un financement permis ici par l'Académie. Nicole Belloubet a redit sa volonté de généraliser le dispositif en 2025.
Cela suppose que nous puissions faire un bilan de cette expérimentation en termes de qualité de vie, de fonctionnement également, et en termes de lien avec les collectivités territoriales qui sont nos partenaires, les départements, sur ce projet.
Mais Départements de France, qui finance les collèges, a déjà exprimé ses réticences. Cette opération serait trop coûteuse et précipitée.
Un reportage de Louise Salé, spécialiste des questions d'éducation pour Europe 1. Il est 6h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu. La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, ce sera après la pause, avec notamment une séance budgétaire pour l'Assemblée de la province des îles.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Vous souhaitez un logement à la location ou en accession à la propriété sur le secteur situé entre Boulou-Paris et Tontouta ? Le FSH vous donne rendez-vous dans le patio de la mairie de Boulou-Paris les mercredis 28 août et 4 septembre de 9h à 13h pour recenser toutes les demandes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez le 05 10 15 et demandez le pôle accession et financement. Le FSH, c'est bien plus qu'un toit.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne ? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et l'Assemblée de la province des îles qui s'est donc réunie hier à Lifou à l'ordre du jour des élus, notamment le budget supplémentaire de la collectivité pour 2024. Il se monte à 1,7 milliard de francs en investissement et 900 millions en fonctionnement, en très nette baisse par rapport à 2023. Isabelle Béarounet est élue UCFNKS à la province des îles.
Un budget supplémentaire en difficulté par rapport à la situation financière fragile de la province des îles, mais c'est le cas de toutes les collectivités. On a voté quand même des efforts sur la maîtrise des dépenses, par exemple sur les baisses des charges du personnel, la baisse des indemnités des élus de 50 000 francs par élu, aussi les réductions des aides financières de la collectivité. Donc des efforts, mais aussi des aides qu'on a pu accorder aux entreprises qui sont déjà en difficulté économiquement à partir des événements du 13 mai. Donc un dispositif d'aide d'urgence qui est complémentaire au dispositif du gouvernement et au dispositif de l'État en ce qui concerne le chômage partiel.
Le PADICA s'est abstenu sur ce budget supplémentaire 2024, mais il a également été question de relance économique avec un forum qui va se dérouler pendant deux jours à partir de ce matin.
Le forum de relance économique, donc on compte à tous nos partenaires, tous nos acteurs économiques, les forces vives de l'île, de pouvoir échanger et venir partager des idées innovatrices, mais dans le but bien sûr de développer des stratégies pour une relance économique durable. Comment on va décider des orientations politiques dans la restructuration justement des secteurs clés comme le tourisme, l'agriculture, la pêche, mais aussi la recherche d'autres financements, d'autres dispositifs de financement par rapport à ces secteurs prioritaires.
La province des îles qui souhaite également transférer à la Nouvelle-Calédonie la charge du minimum vieillesse et qui va abroger le bénéfice de l'aide au transport pour les habitants des îles qui bénéficient déjà de la continuité territoriale. En bref, le Sénat coutumier exprime sa profonde tristesse et son indignation après l'incendie qui a ravagé la grande case de la grande chefferie de Wetsch. Le nouveau président Éloi Goé souligne dans un communiqué, je cite, que la destruction de ce symbole est une perte immense pour tous, un affront à notre héritage culturel et à notre histoire commune. Il apporte son soutien à la grande chefferie siazée, aux clans, aux familles et aux membres des tribus touchés par cet événement tragique. L'actualité, en bref, c'est aussi la reprise du SMTU. Ce ne sera pas pour tout de suite, hein, puisqu'une réunion avait lieu hier après-midi entre la direction et les différents délégataires. Une suspension a été actée jusqu'au 13 septembre pour le moment. Le SMTU travaille actuellement pour une éventuelle reprise, mais au vu de la situation financière de l'entreprise et du contexte sécuritaire, cela pourrait prendre encore un peu de temps. Et enfin, on va s'intéresser à l'œil. En grande difficulté financière, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie se met en sommeil, Léana Colombo.
Et oui, alors que le coût annuel de fonctionnement de l'association approche des 120 millions de francs, l'ensemble des subventions a été suspendu. L'œil a donc placé son équipe de 10 personnes en chômage partiel, a réduit ses services au minimum et les projets en cours se sont arrêtés pour une durée indéterminée, explique Fabien Albouy, directeur de l'œil.
L'objectif en fait de cette mise en sommeil, c'est de réduire nos coûts et de nous permettre de passer la crise de manière à pouvoir assurer une surveillance de l'état de l'environnement et de continuer à être une source d'information sur l'état de l'environnement pour les populations, les gestionnaires, les décideurs, en toute neutralité et en toute transparence. On assure des services qui ne sont pas assurés par les collectivités ou d'autres structures, notamment je pense à la détection des incendies, à la mesure de l'impact environnemental des feux, etc. Pareil, en fait, les diagnostics environnementaux qu'on porte sur le Grand Sud ou sur Thio, notamment par rapport aux impacts miniers, en fait, on est les seuls à les produire. Et puis surtout, l'œil a accumulé 15 années de données de suivi environnemental, a mis en place des outils pour assurer la mémoire en fait de l'environnement calédonien. Et tous ces outils, si l'œil disparaît, ils ne seront pas forcément repris et on risque d'avoir une grosse perte de connaissances. Et voilà, oui.
Durant les trois prochains mois, seules les détections d'incendies seront mises à jour automatiquement sur le site internet. Et en attendant de trouver des solutions plus pérennes, l'œil met en place une cagnotte en ligne.
Merci Léana Colombo. Il est 6h54. On tourne une dernière pause de publicité dans ce journal. Direction Paris dans un instant pour les Jeux Paralympiques. Pas de sacre français la nuit dernière, mais tout de même 4 nouvelles médailles dans l'escarcelle.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Information, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse rrb@rrb.nc.
Jusqu'au 30 septembre, lancez la roue de la chance Excellium avec Total Energy. Participez et gagnez des cartes cadeaux carburant. Un pack Apple avec un iPhone 15 et son AirPod Max. Un VTT électrique. et plein d'autres cadeaux pour une valeur totale d'1 million de francs. Alors rendez-vous dans votre station Total Énergie préférée pour lancer la roue de la chance et gagner des super cadeaux. Plus d'infos sur Facebook, règlement disponible en station.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et on prend tout de suite la direction de Paris.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et je le disais, 4 nouvelles médailles, mais pas d'or hein, aujourd'hui pour la délégation tricolore. Et la moisson a été belle, notamment en natation. Sur 200 mètres 4 nages, Alex Portal termine deuxième après avoir touché juste derrière le Biélorusse Iar Boki, une légende de la discipline qui a d'ailleurs réalisé un record du monde pour son 21e titre paralympique. Alex Portal, lui, remporte sa 4e médaille. Quant à Hugo Didier, après avoir été titré sur le 400 mètres nage libre la semaine dernière, il a pris l'argent sur le 100 mètres d'eau en catégorie S9. De son côté, Laurent Chardard récolte la médaille de bronze sur le 50 mètres papillon. C'est son premier podium paralympique après avoir terminé 4e au pied du podium à Tokyo. C'était en 2021. On parle maintenant de para-tennis de table. Matteo Boeas, qui souffre d'une malformation au pied, est médaillé de bronze après avoir perdu en demi-finale. En athlétisme, le Wallisien Soane Messione a disputé la finale du lancer de poids F20. Il termine à la 4e place avec un lancer à 16,42 m. Le podium se jouait à 16,99 m. J'ajoute que la France est en demi-finale également du Cécifoot avec une qualification acquise donc la nuit dernière. Au classement des médailles, qui est dominé par la Chine, la France est 5e avec 38 médailles, dont 11 en or. Et puis on retrouvera le Calédonien Pierre Ferbank la nuit prochaine sur le 100 mètres et puis le lendemain sur le 800 mètres fauteuil. On en reparlera évidemment sur l'antenne de Radio Rythme Bleu.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le reste de l'actualité sportive avec du cyclisme. On courait la 16e étape du Tour d'Espagne la nuit dernière et la semaine commence avec une victoire espagnole. Marc Soler a été le plus fort de l'échappée pour s'imposer. L'Australien Ben O'Connor passera une journée de plus en rouge. Il a souffert hein, puisqu'il a été attaqué à plusieurs reprises à 7 km de l'arrivée dans un final pentu. Finalement, il a sauvé sa place de leader pour 5 petites secondes. Primoz Roglic est donc revenu au contact direct au classement général. Le meilleur français, David Gaudu, 13e de l'étape du jour, est actuellement 6e du classement général. Et puis en bref, le français Paul Magnier de Soudal Quickstep a lui remporté la première étape sur le Tour de Grande-Bretagne. Dans l'actualité sportive, il y a aussi du tennis puisqu'on joue les quarts de finale de l'US Open. Ce matin, Taylor Fritz fait face à Alexander Zverev. Il y a donc un set partout entre les deux hommes actuellement. Dans la matinée, on suivra la confrontation entre Grigor Dimitrov et Frances Tiafoe. Et puis chez les femmes, Emma Navarro a battu Paola Badosa en 2-7. L'autre quart du jour opposera Qing Zhenzhang à Arina Sabalenka. Ce sera donc en fin de matinée.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On va pas se mentir Thierry, c'est pas une journée folichonne.
Voilà, puisque nous sommes en vigilance jaune, c'est-à-dire pour tout d'abord pour un vent violent sur les communes de Poum à Pouya, pour un vent forcissant par moment à 25 voire 30 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 40 nœuds aux environs de 75 km/h. Ce sera de aujourd'hui à demain après-midi. Une vigilance jaune pour une forte houle sur l'île des Pins, une houle orientée sud-sud-ouest de 3 mètres pour cette nuit de mercredi jusqu'à demain soir. Ce matin, le temps reste généralement bien ensoleillé, mais une bande nuageuse faiblement pluvieuse abordera le sud de la façade ouest en fin de matinée apportant un temps maussade. L'Alizé, lui, orienté sud-sud-est pour ce matin entre 10 et 15 nœuds, localement 10 nœuds sur le sud. Il se renforcera sur le nord-ouest autour des 15-20 nœuds en fin de matinée et il sera moins fort sur le nord-est et au Loyauté. Il s'établira autour des 10 nœuds. Cet après-midi, le temps sera souvent maussade avec des pluies faibles mais qui pourront être modérées par endroits sur la moitié sud de la Grande Terre. Quelques éclaircies résisteront encore sur le nord-ouest et le nord des Loyautés. L'Alizé pour cet après-midi, toujours au sud-sud-est, cette fois entre 20 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds sur la façade ouest et le sud-est, voire en fin d'après-midi sur le nord-ouest, plus de 25 nœuds et des rafales jusqu'à 40 nœuds. Il sera moins fort sur le nord-est et au Loyauté. Il sera compris entre 10 et 15 nœuds. Les températures maximales pour terminer, elles seront comprises pour aujourd'hui entre 24 et 29 degrés.
Merci beaucoup Thierry, c'était donc très complet.